Bonjour, ici Jessica Bouchard, vice-présidente à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Vous écoutez S'entretenir, une série de balados qui se penche sur des enjeux d'affaires et de développement économique stratégique pour Montréal. Cette nouvelle saison mettra en valeur des dirigeants et des experts qui nous parleront de leur engagement pour contribuer à la transition vers une économie verte. On le sait, les villes et les métropoles occupent une position déterminante dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment la densité de population, d'entreprises et d'activités économiques qui sont propres aux grandes villes. À la Chambre, nous sondons régulièrement les entreprises pour mesurer leurs avancées dans la transition et comprendre leurs défis. Tout ça dans le but de mieux les accompagner. On constate qu'il y a un fort consensus à Montréal. Les gens d'affaires veulent s'engager. Ils comprennent l'importance que le secteur privé agisse pour la décarbonation. Mais on a du retard et on doit accélérer la transition. Pour ça, on pense qu'on doit diminuer l'anxiété qui affecte plusieurs gestionnaires et s'entraider, travailler en groupe. C'est dans ce contexte que la Chambre et BMO Groupe Financier ont uni leurs forces avec plusieurs partenaires pour déployer Convergence. C'est une initiative d'impact qui propose des pistes de transition pour des entreprises durables. L'esprit de Convergence, c'est la promesse qu'on progresse mieux ensemble. C'est donc une action collective pour le climat. Nous allons partager à travers ce balado des parcours inspirants et inattendus en parlant de solutions qui sont à notre portée pour atteindre la carboneutralité. S'informer, c'est aussi contribuer à la transition. Restez à l'écoute de S'entretenir. Le Québec se démarque sur la scène internationale par une richesse assez unique, son énergie propre. La transition présentement en cours pour décarboner notre économie met une pression immense sur le secteur de l'énergie. On veut diminuer notre consommation d'énergie fossile, électrifier et optimiser. Tout ça augmente la demande pour les sources d'énergie verte. On comprend qu'on doit produire plus d'énergie propre, mais surtout mieux consommer et être plus efficient. Dans cet épisode, nous aborderons la transition énergétique sous l'angle d'une grande institution. L'Université Concordia est un cas hors du commun. C'est un lieu de développement et de partage des connaissances, d'avancées scientifiques, d'innovation qui accueille quotidiennement des dizaines de milliers de personnes. C'est la première université canadienne à avoir annoncé la sortie complète des énergies fossiles de son portefeuille d'investissement. En 2023, le président et vice-chancelier de l'Université Concordia, M. Graham Carr, a fait l'annonce à la tribune de la Chambre d'une initiative hors du commun, le plan Net Zéro. L'objectif du plan Net Zéro est de décarboner tous les campus et d'atteindre la carboneutralité complète à l'Université Concordia d'ici 2040. J'ai le plaisir d'avoir comme invité Stéphane Chaillé, conseiller stratégique auprès du président de Concordia, un des idéateurs du plan Net Zéro. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jessica, je suis bien heureux d'être ici avec toi.
Stéphane, on se connaît depuis plusieurs années, tu as été conférencier à la Chambre dans le cadre de tes fonctions chez Siemens. Depuis que tu es à l'université, on a collaboré étroitement sur notre projet Convergence, puis sur le plan Net Zéro, notamment lorsque vous avez décidé de l'annoncer à la tribune de la Chambre l'année dernière. J'aimerais t'entendre sur ta perspective sur la transition énergétique. Tu es ingénieur de formation, tu as une expertise impressionnante dans les domaines des infrastructures, de la décarbonation. Parle-nous de ton parcours puis de tes années d'expérience dans le milieu industriel.
Bien, mon parcours commence après, pendant la fin de mon bac à l'Université de Montréal. J'ai étudié en génie mécanique à l'École polytechnique. Et j'ai commencé ma carrière, un des quatre chapitres de ma carrière, dans des petites moyennes entreprises où assez rapidement. C'était la fin de la récession en 89, alors il n'y avait pas beaucoup de travail, puis il fallait être créatif et on m'utilisait déjà pour faire du changement organisationnel, envoyer l'organisation vers de nouvelles directions. Après 5 ans, un deuxième chapitre a été dans des multinationales. J'étais très curieux, je voulais me retrouver dans une multinationale, ça m'intriguait. Donc j'ai eu la chance de travailler pour des Japonais, ensuite des Suédois. Encore une fois, pousser l'organisation vers de nouvelles directions, de nouvelles avenues. Gérer des acquisitions, des nouvelles connaissances. J'ai toujours aimé le volet changement organisationnel, puis j'ai toujours trouvé que c'était intéressant d'embarquer rapidement dans ces changements-là. Au lieu de se faire imposer des recettes développées par d'autres, ça me permettait, avec mon équipe, d'immobiliser puis d'utiliser la créativité de l'équipe pour forger le futur. Je suis arrivé à la conviction à mon année que c'était plus facile créer le futur que défendre le passé. Et souvent, il y a des gens qui s'acharnent à essayer de maintenir le statu quo, mais éventuellement, la transformation nous rejoint. Puis quand on a embarqué très tôt dedans, mais on peut vraiment créer quelque chose de mobilisant pour les équipes. Alors, après une carrière industrielle, surtout dans le domaine des papetières et des produits récréatifs, Encore une fois, la piqûre du changement m'a pris après 9 ans et j'ai entamé un troisième chapitre cette fois-là. C'est là que j'ai rentré, directeur des ventes chez Siemens. Je ne connaissais pas les ventes, je ne connaissais pas l'automatisation, je ne connaissais pas l'industrie du bâtiment, l'industrie institutionnelle. Alors, je me suis mis dans un milieu où il y avait assez de défis pour me divertir. Et de fil en aiguille, 6 ans plus tard, je me suis retrouvé à la tête de technologie du bâtiment pour le Canada. Et ce séjour-là était très, très riche. Hein. C'est comme, je dis des fois, c'est comme Obélix qui est tombé dans le bassin de la potion magique. Moi, j'ai tombé dans le bassin d'électrification sans trop le savoir. Compagnie qui œuvre dans l'automatisation, la décarbonation. À chacune des étapes, encore une fois, le dénominateur commun, c'était de pousser l'organisation vers des nouvelles directions. Donc, ça a été le fil conducteur, je pourrais dire, de ma carrière.
Puis, ce que tu m'expliquais, c'est que tu as contacté l'équipe de Concordia, puis qui étaient des collaborateurs à ce moment-là, puis que c'est présenté à toi une opportunité que tu n'avais pas vu venir. J'aimerais t'entendre là-dessus.
Oui, Jessica, après la pandémie, moi, j'arrive à la conclusion. Je découvre que ça fait près de 15 à 20 ans que je voyage presque toutes les semaines, puis... J'étais bien chez nous, alors c'est un peu un effet motivant là, de dire peut-être c'est le temps de changer de carrière. Et en annonçant au recteur de l'université, Graham Carr, que je quittais l'entreprise, j'ai vu que son cerveau partait en spirale, puis il me dit « je vais te revenir ». Et pendant l'été, ben, je lui donnais des pistes, des directions pour aider à faire son plan de décarbonation et amener l'organisation ailleurs. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à avoir une discussion, puis je me suis greffé au groupe parce qu'il m'offrait la possibilité de contribuer. Et ce que je voulais faire, justement, c'était de redonner mon expertise que j'avais accumulée dans la multinationale, redonner ça à une organisation pour l'aider à avancer autour de la décarbonation, de la transition énergétique. Et ça cochait toutes les cases. Et me voici, je suis maintenant... un allié de Concordia dans cette course vers la décarbonation.
Puis Concordia, ben, on sait, c'est une grande institution. Des milliers, des dizaines de milliers de gens qui viennent sur le campus à chaque semaine, à chaque jour au centre-ville. Stéphane, avant de parler plus en détail du plan Net Zéro puis de ce que ça représente pour Concordia, pour Montréal, pour notre milieu des affaires aussi, j'aimerais t'entendre sur la course à la décarbonation qui est engagée partout à travers la planète. Ici, on part avec une petite longueur d'avance grâce à notre accès à de l'énergie propre, à nos capacités en hydroélectricité. D'autres États font des investissements à hauteur de dizaines de milliards. Les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, l'Europe avec le Green Deal, la Chine à travers des filières industrielles stratégiques comme la batterie. Stéphane, comment est-ce qu'on se positionne au Canada ou au Québec? C'est quoi nos risques potentiels si on ne suit pas la cadence dans cette transition énergétique qui est mondiale?
Comme tu l'as dit, on est bien positionné pour l'instant parce qu'on a le bénéfice d'avoir une énergie propre et certains des pays, des régions que tu as mentionnées, ont déjà une grille pleine de carbone qu'ils doivent décarboner. Donc, ça leur fait quand même une pente raide à monter. Mais avec les investissements que tu viens de mentionner, et moi j'étais justement il n'y a pas longtemps aux États-Unis, je voyais l'effet... non seulement de l'Inflation Reduction Act, mais du bâton et de la carotte que la culture américaine met en place, ça fait bouger les choses à une vitesse grand V. L'Europe, suivant la guerre, a eu une pression économique incroyable, ce qui a justifié de décarboner, de pousser la société vers les énergies renouvelables, pas seulement par nécessité, mais aussi parce que tout d'un coup, le modèle financier fonctionne. Quand tu économises du gaz en Europe, tu économises beaucoup de sous. Aux dernières fois que j'ai regardé ça, c'était 65 sous le kilowatt-heure en Europe et on est peut-être à 7-8, nous, au max. Donc, quand tu fais un bilan financier puis tu économises des watts, tu économises beaucoup, ça permet le déploiement de technologies. Et dernièrement, je lisais que la Chine a déployé plus de photovoltaïque dans une année en Chine que toute l'Europe depuis l'existence du photovoltaïque. Ça nous dit que notre avance pourrait fondre comme neige au soleil. Je ne veux pas faire une analogie avec les changements climatiques, mais ces gens-là, en déployant leur technologie, ben, innovent, créent des souches de compagnies qui vont se positionner. Et ça fait en sorte qu'il faut nous aussi embarquer dans cette mouvance-là. Je dis souvent que la transformation en cours, c'est une révolution industrielle, c'est une transformation socio-économique. Et on ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers en disant que ben, nous, on est correct dans le moment. Parce que quand la société sera ailleurs, bien, il faudra rattraper du temps perdu, puis ça sera très difficile de se repositionner. Donc, le risque, c'est de prendre pour acquis qu'on n'est pas si pire que ça. Et quand on regarde notre consommation d'énergie partout, les graphiques que vous allez voir, bien, on est les deuxièmes pires consommateurs d'énergie. Donc, on a un énorme potentiel d'économie d'énergie. Et une bonne partie des énergies consommées sont dans les bâtiments, dans les villes. Évidemment, il y a le transport aussi, mais il y a vraiment un potentiel énorme. Donc, si on part avec notre énergie verte puis qu'on pousse tout de suite la cadence, bien, on va pouvoir suivre la mouvance internationale et mieux se positionner. Le risque, ça pourrait être un risque économique et social important.
Donc, comme tu dis, on a quand même des atouts ici. On a l'expertise, on a aussi une transition puis une vision, tu sais, gouvernementale d'Hydro-Québec, des acteurs engagés comme Concordia pour revoir notre manière de produire, consommer, stocker l'énergie. Puis comme tu dis, c'est une ressource qui est très, très précieuse. Donc, il faut apprendre autant aux entreprises, aux résidents aussi, à voir comment est-ce qu'on peut faire des économies là, à travers tout ça.
Oui, ce que je vois, c'est qu'on a quand même des forces particulières au Québec. D'être un petit groupe économique, ça nous donne peut-être pas les moyens des grands, mais ça nous donne une agilité que les autres n'ont pas. Et pour avoir voyagé un peu et travaillé partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, comme je mentionnais, et dans le reste du Canada, quand le Québec se regroupe puis s'aligne, on bouge rapidement. Il y a un terroir fertile ici pour l'innovation avec le capital de risque. Quand on combine les travaux que vous faites à la Chambre, Montréal International, le ministre de l'Innovation, les grands forums qu'on a, avec différents acteurs, hein, on pense à Finance Montréal, le sommet climat. L'année passée, l'émergence du sommet des solutions climatiques. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'aligner. Et juste par les travaux qu'on a faits, nous, la réponse du marché, elle est bonne. Donc, on a tout le potentiel là, pour être très innovant et de très bien se positionner au Québec. J'en ai aucun doute. Il faut juste travailler ensemble, briser les silos, puis se tenir les coudes serrés.
Puis c'est l'objectif du plan net zéro, c'est la parfaite transition. Stéphane, j'aimerais t'entendre nous parler plus en détail du plan que vous avez annoncé l'année dernière. Une initiative unique à Montréal, un nouveau modèle de laboratoire vivant en matière de décarbonation. Qu'est-ce que ça constitue le plan net zéro, puis quelles en seront les étapes les plus importantes?
Bien, plan net zéro, c'est d'abord un plan avec une colonne vertébrale qui tourne autour de la décarbonation de 80 bâtiments en deux parcs immobiliers, les deux campus, un au centre-ville, un à Loyola. Mais en faisant ça, ce qu'on veut, c'est qu'on veut permettre aux chercheurs d'utiliser le bâtiment pour faire de la recherche en décarbonation et dans la transition énergétique. On veut que ces découvertes-là soient exposées au capital de risque pour pouvoir rapidement faire des compagnies et accélérer la transition du même coup. Puis on veut que ces projets-là soient exposés à la communauté étudiante, à la société civile, à l'environnement économique de Montréal pour que tout le monde en apprenne en même temps. L'idée est venue en exploitant finalement ce qu'il faut faire de toute façon, la décarbonation des bâtiments, mais de rendre cet actif-là, qui a toujours été passif dans le milieu de l'éducation, un outil. Pourquoi maintenant un outil? C'est parce qu'il y en a partout des bâtiments, puis il faut le faire. Donc, ça devient une colonne vertébrale d'un projet qui est plus qu'une décarbonation. Donc, au fur et à mesure qu'on décarbone ces bâtiments-là, on vit des expériences, on déploie des technologies, puis on ouvre cet actif-là. On le met en disponibilité à notre corps professoral de chercheurs qu'on a. Les étudiants vont pouvoir avoir une certaine transparence. Donc déjà, on a deux piliers là, qui viennent d'être affectés. On peut faire une recherche pragmatique avec un impact sur un actif qui est en transformation. Ça pourrait se copier et coller ailleurs. Et si on partage ce savoir-là, on a déjà un avancement de société de fait. On peut former des étudiants bientôt qui auront des transformations pratiques en décarbonation et ont accès à ça. Donc, on va former les leaders des prochaines générations avec une formation qui est encore plus actuelle. Et quand je parle de ces transformations-là, ce n'est pas seulement technique. La faculté de génie est au cœur de cette transformation-là, mais la finance durable, les achats, la communication, on voit même le débordement dans les aspects psychologiques. On entend parler qu'il y a de l'angoisse. Si on fait ça, puis on le fait bien comme on veut le faire, bien le capital de risque va être intéressé. Et on voit déjà, moi j'ai déjà eu des échanges, on voit déjà le capital de risque se rapprocher des centres de recherche. Et toute la réglementation et les pratiques au niveau de l'exécution des contrats, Ben, si on aussi, on travaille en équipe, on partage en temps réel les embûches, les obstacles, puis les modèles de correction sur ce qui a été défini il y a un siècle, mais qui est plus applicable aujourd'hui, ben, ensemble, on va avancer plus vite. Alors, pour moi, ça crée un espace d'innovation, de décarbonation urbaine. Et là, je n'ai pas touché le comportement humain. Il y aura des changements de comportement qui vont être associés à ça, le transport, la mobilité. Moi, je trouve que c'est très, très excitant d'avoir ça dans notre ville. Et venant d'une compagnie d'envergure qui avait des projets à l'international, j'étais souvent sous mon appétit en disant « Ah, c'est encore Vienne qui vient de se positionner. Je n'ai pas été capable d'attirer les filiales étrangères ici. » Mais là, avec un projet comme ça, on a de l'intérêt des filiales étrangères. Je pense qu'on va voir quelque chose de très beau se développer dans les mois, les années à venir.
Stéphane, peut-être pour les gens à l'écoute, on connaît tous Concordia, mais peut-être entendre sur l'étendue des bâtiments, qu'est-ce qui va être réalisé à travers le plan Net Zéro comme économie en termes d'émissions, qu'est-ce que ça représente plus concrètement?
Moi, j'ai été impressionné en joignant l'organisation parce qu'on voit toujours ça de l'extérieur, mais c'est 50 000 étudiants quand même, c'est du monde à shop, comme on dit en bon québécois. Oui. 50 000 étudiants, c'est des gens qui fourmillent hein, sur deux campus, un au centre-ville, un à Notre-Dame-de-Grâce, qui est magnifique en passant, un très bel espace. Donc, un campus urbain avec des tours à bureaux. Dans ça, il y a de coller quelques bâtiments qui sont des vieux triplex centenaires. Une diversité de bâtiments qui représente vraiment la ville de Montréal. Dans le campus au centre-ville, il y a un métro qui sort sur le pavillon GM, le projet pilote qu'on va faire. Donc, on a vraiment, si on fait un déploiement technologique là, un terreau fertile pour pouvoir vraiment faire une feuille de route qui sera, j'ose espérer, capable de démontrer non seulement à Montréal, au Canada, mais à l'international notre savoir-faire.
Justement, je sais qu'on est au début d'un plan sur 10 ans, mais qu'est-ce que tu as en tête lorsqu'on parle d'opportunités pour le milieu des affaires ou même les élus municipaux ou du gouvernement du Québec? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce que vous allez mettre en place puis pourrait s'appliquer peut-être à d'autres villes ou à d'autres campus ou institution?
Comme Concordia est une mini-ville dans une ville, puis qu'on a dans cet espace-là beaucoup de bâtiments, de gros bâtiments, ça fait des gros projets. Moi, je dis souvent, et je pense que je t'ai partagé ça à maintes reprises, c'est en faisant qu'on apprend. La décarbonation, c'est tellement nouveau. On a beau lire des livres, ça nous explique hypothétiquement ce qu'on pourrait faire, mais tant qu'on ne le fait pas, on ne le sait pas vraiment. On ne sort pas aux difficultés, aux contraintes, qui souvent arrive du champ gauche. Hein. On veut faire un mouvement à droite, puis on a une embûche à gauche. Ça peut être une embûche financière, réglementaire. Donc, ce que ça va apporter, si on bouge ensemble rapidement, bien, ça va nous faire des cas d'espèce où on va avoir appris en faisant et on va pouvoir partager au milieu des affaires et à la ville qu'est-ce qui fonctionne mieux ou moins bien. Maintenant, tout ça pour le milieu des affaires, c'est pour que notre milieu des affaires évolue, ça lui prend lui aussi des grands projets. C'est beau, des petites activités de rétrofit. Il y en a quelques-unes, des conversions de bâtiments. Mais là, on parle vraiment d'un parc immobilier. En ayant un grand projet qui touche 80 bâtiments sur deux campus, ce que je pense qu'on offre à la ville et à la communauté des affaires, c'est plus qu'un événement de transformation de bâtiments, mais c'est plutôt une pérennité de projet. Donc, on peut, quand on gère une compagnie, commencer à développer des ressources, mobiliser des ressources, parce qu'on sait qu'il va y avoir des projets. Et si on le fait dans l'optique qu'on veut le faire, c'est qu'on va avoir un certain partage d'expérience. Donc, tout le monde va y gagner. Et souvent, on a un projet, puis après ça, on attend 3-4 ans avant qu'il y en ait un autre. Là, on a déjà enclenché la phase 2 et on s'en va vers la phase 3. Et on n'arrêtera pas. Là. Si la charge de travail est trop grande, on fera une phase plus petite, on fera un triplex. Mm-hmm. Ou on fera 4 triplex. Après ça, on reviendra sur la tour à bureau, mais on va continuer. Donc, ça donne une certaine stabilité transformationnelle à Montréal. Et je suis certain qu'on va tous y gagner.
Certainement, sachant que la Ville de Montréal a adopté une feuille de route pour atteindre la carboneutralité du bâtiment, c'est 2040. Donc, 2040, ça approche. Vous, votre projet, comme tu le disais, bien, ça va avoir des impacts réels sur les infrastructures de Concordia, sur votre parc immobilier, mais certainement que les entreprises, les promoteurs, les développeurs ici vont pouvoir tirer parti des apprentissages, des innovations que vous développez, parce que c'est aussi un défi majeur, là, comme tu dis, d'agir pour la décarbonation du bâtiment à l'échelle du Grand Montréal.
C'est exactement le point. On est en adéquation avec la ville, de plus en plus avec les orientations, qu'on pourrait dire planétaires. Dans certains cas, on anticipe un peu ce qui s'en vient, mais il y a beaucoup d'éléments convergents Et il faut qu'il y ait des projets. Encore une fois, je reviens sur le fait pour que pour le monde des affaires s'ajuste, il faut les nourrir de projets. Mm-hmm. Et dans certains cas, peut-être, les projets seront encore plus ambitieux dans la phase 2 ou 3. Mais quand on pense qu'on fait des activités de construction, il y a une grande partie de ces activités-là qui sont dirigées par des grands consortiums. Mais à la fin, il y a quand même des corps de métier dans ça qui vont venir mettre l'épaule à la roue. Et dans les projets qu'on fait, dans les appels d'offres qu'on a faits, on a imposé des normes environnementales aussi à la démolition, à la construction. Ça vient mettre, comme grand donneur d'ordre, un ton,
oui.
Une attente qui est encore une fois transformationnelle, qui pousse l'évolution des PME. C'est important pour Montréal d'avoir un projet porteur et on espère qu'il y en aura d'autres.
On le souhaite, ça c'est certain. Stéphane, on s'arrête pour une courte pause. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du projet Convergence et est propulsé par J'aime travailler au centre-ville avec le soutien du gouvernement du Québec. Convergence vise à accélérer l'atteinte de la carboneutralité et l'intégration de pratiques d'affaires durables dans nos entreprises. Convergence est co-développée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO Groupe financier avec nos partenaires Recyc Québec, Hydro-Québec, Atkins Realis, Énergir, LG2, Yule Aéroport International Montréal-Trudeau et Sun Life. Nous sommes de retour avec Stéphane Chaillé. Stéphane, je veux aussi t'entendre sur la question de la réaction de vos équipes, de vos employés à ce grand changement-là. On met l'emphase sur la décarbonation dans le secteur du bâtiment, mais pour la plupart des gens à l'écoute, qui sont des gens d'affaires, ils ont en tête d'amorcer ou d'accélérer la transition verte de leur entreprise. Donc, on peut parler de GES, on peut parler aussi d'intégration de l'économie circulaire, on peut parler de revoir certains modèles d'affaires ou façons de faire pour réduire l'empreinte environnementale d'une entreprise. Mais tout ça, tu l'as bien expliqué, ça demande une gestion du changement. Je vais te citer, Stéphane, dans une de tes publications récentes, tu disais « La croissance mange toujours l'innovation au petit déjeuner. Adopter le développement durable poussera votre équipe vers la créativité et l'innovation, conduisant souvent à une culture d'amélioration continue renouvelée. » Je termine la citation. Donc, Stéphane, après un an, le petit déjeuner, vous en avez eu quelques-uns, là. Après un an, parle-nous des effets du plan sur votre culture puis de l'adhésion des gestionnaires, des employés, des professeurs de Concordia.
Ça me fait plaisir que tu aies récupéré cette citation-là parce que j'y crois vraiment. Ça me fait sourire à chaque fois que je la lis, mais c'est vraiment quelque chose de profondément positif qui arrive et on n'en parle pas assez. Quand on voit les gens qui ont de l'anxiété dans le moment, et cette anxiété-là, c'est l'incapacité d'agir sur la plus grande transformation qui nous arrive, c'est pas sain. Quand, comme employeur, on permet à nos employés, à petite et moyenne échelle, de se canaliser dans une activité qui a un impact sur l'environnement, bien, ça réduit le stress, ça augmente la mobilisation, l'énergie. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient renouvelés d'un enthousiasme au travail. Il y a même quelqu'un qui a dit dans l'environnement Concordia, c'est le projet de ma vie. Vous pouvez voir là, assez rapidement que c'est souvent pour des entrepreneurs un espace où ils n'osent pas trop aller parce qu'ils se disent c'est une charge de travail en plus. Moi, je dis c'est pas une charge de travail en plus, c'est un outil de mobilisation en plus. Et ça se trouve pas sur le top, comme certains disent. Tu sais, ma journée est pleine, puis tu viens me mettre ça par-dessus. Non, c'est dedans tout ce que tu fais. Alors, les gens viennent au bureau, puis ils ont une nouvelle raison de se présenter au bureau. C'est qu'ils contribuent à cette transformation si importante. Concrètement, qu'est-ce que ça fait quand on est autour d'une table de travail qui travaille à pied ferme sur la transition énergétique? On a comme une réinvention de l'amélioration continue. C'est qu'on veut améliorer la chose, mais pas juste pour produire plus, pour produire à moins cher. On veut l'améliorer pour produire mieux, avec moins d'empreintes écologiques, pour nos enfants, pour nos familles, pour la société. Tu peux voir rapidement que ça donne un sens à ce qu'on fait. Et moi, je trouve fondamentalement que les PME, les grandes entreprises, les groupes de société civile devraient tous profiter de ça, parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pas d'arrêter ce qu'on faisait dans le passé, comme je te disais, c'est pas de protéger le passé, qui est important, mais de créer le futur. Et ce futur-là, l'humanité a toujours réussi à le rendre meilleur. Bon, peut-être qu'on a eu un petit 50 ans là, d'égarement en surconsommant, mais on va rendre le monde meilleur, plus équitable, mais il faut permettre aux gens collectivement de participer à cette aventure-là.
C'est clair que c'est extrêmement mobilisant, motivant de contribuer à une mission comme ça, comme tu le dis. Puis tu l'expliques tellement bien, Stéphane, ça donne beaucoup de sens au travail. Ça vient vraiment rehausser l'engagement des employés de savoir qu'ils peuvent contribuer à la transition écologique, à la lutte au changement climatique. Ça nous concerne tous à la Chambre de commerce, nos équipes. Tout le monde est impliqué sur le projet Convergence. Les gens souhaitent contribuer. Puis c'est très, très motivant. Lorsqu'on prend la rétroaction là, des employés, de nos collègues, ils sentent qu'ils peuvent faire partie de la solution puis qu'ils sont dans l'action. Maintenant, Stéphane, j'aimerais t'entendre sur une question importante par rapport à nos chaînes de valeur. Donc, on sait la recherche académique puis l'innovation qui est faite dans nos universités, c'est un maillon essentiel. Après, ben, il faut être capable de commercialiser ces innovations-là ou que ça se rende aux entreprises qui vont pouvoir les intégrer. Donc, si on reprend l'exemple du plan Net Zéro, comment est-ce que tu vois les collaborations entre le milieu académique, Concordia, puis les entreprises, l'écosystème économique du Grand Montréal?
Et c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se développer. Puis ça, je peux en parler déjà pour l'avoir expérimenté un peu, même avant que les premières phases passent à l'étape de l'exécution. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de briser l'isolement entre la recherche et le venture capital ou le capital de risque. D'un côté, on a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais peut-être pas assez d'idées. Pas parce qu'ils manquent d'idées, mais ça prend des idées d'innovation.
Mm-hmm.
Puis si on se retourne vers l'université, on a trop d'idées puis pas assez d'argent. C'est deux solitudes qu'on doit marier ensemble. Mais c'est aussi deux mondes tellement différents qui ne se parlent pas beaucoup. Alors, on a déjà entamé, dans le cadre de Planète Zéro, des relations et des présentations de part et d'autre. Alors moi, je suis allé rencontrer des gens dans le capital de risque pour leur expliquer la réalité du monde de la recherche. Et j'ai fait des séminaires, des lunch and learn avec les chercheurs pour leur monter le potentiel du capital de risque. Et là, je voyais sur 20, 30 étudiants en recherche, en PhD, des yeux s'ouvrir et s'illuminer en disant « je pourrais faire ça, moi ». Puis je disais « oui, oui ». Et là, on a fait des séances de speed dating. C'est Patrick de SICK Momentum qui est venu, puis on a préparé la présentation de 5 idées qui sont dans le moment encore dans des projets de recherche, exposées à un groupe qui est intéressé. Et ça, ça leur permet d'entrer très tôt dans le cycle, orienter même peut-être une partie de la recherche pour qu'il y ait un objectif d'impact plus grand à plus court terme. C'est un exemple que je te donne, mais ça, c'est vraiment un pilier. Et là, imaginez une fois que le capital de risque se serait investi ou aurait fait équipe avec un chercheur et qu'il y aurait l'innovation transformée maintenant en petite entreprise. Mais cette entreprise-là a besoin d'un premier client, a besoin de tester, valider. Il y aura peut-être des choses qui vont être à corriger dans cet exercice-là. Et quoi de mieux qu'un campus en transformation pour faire ça? Pour aider à faire ça, on fait même la construction dans les premières phases d'un réseau informatique parallèle pour éviter les problèmes, les embûches, la cybersécurité. Ils auront un fil rouge pour tester puis un fil bleu pour gérer l'opération de l'organisation. Quand on va avoir fait 80 bâtiments, là, ça va être 80 bâtiments connectés avec un réseau en parallèle pour tester des innovations. Donc ça, c'est quelques exemples, mais en conclusion, la collaboration entre l'université et le monde des affaires, c'est une transparence qui s'installe sur les activités à faire et l'engagement dans ces activités-là concrets pour transformer notre société, déployer des technologies, changer des comportements, des habitudes. Et ces deux groupes-là, c'est ensemble qu'on va faire la transformation.
Maintenant, Stéphane, revenons au point focal de votre plan, le plan Net Zéro, qui touche l'utilisation de l'énergie. Hydro-Québec nous a bien sensibilisés, c'est la fin des surplus. Notre énergie est précieuse, tu l'as bien dit, puis avec l'avènement des nouvelles technologies, nous avons des opportunités pour repenser la manière de la stocker, de la consommer. Stéphane, peux-tu nous donner un aperçu des dernières avancées dans le domaine? Est-ce qu'il y a des innovations qui te semblent particulièrement prometteuses et que vous aimeriez tester à Concordia dans le cadre de votre projet?
Bien, les innovations qui me semblent les plus prometteuses dans le moment, c'est celles qui concernent l'énergie décentralisée et toute cette connexion-là à la grille qu'on appelle souvent la grille digitale ou la micro-grille. C'est des manières d'intégrer les diverses sources d'énergie ou de stockage qui existent déjà dans certains cas depuis plusieurs années. C'est sûr qu'il y a une évolution à faire encore et elle est fulgurante là, dans le domaine de la batterie. Donc, la batterie devient un accumulateur d'énergie. Mais il y a la géothermie qui existe depuis belle lurette qu'on améliore constamment. Il y a les pompes à chaleur qui permettent d'extraire de l'énergie à des températures qui jusqu'à maintenant était inconcevable. On peut faire du stockage d'énergie aussi thermique dans des réservoirs d'eau. Il y a beaucoup de sources d'énergie différentes maintenant. Le photovoltaïque qu'on entend, les panneaux solaires, l'éolien. Mais ça ajoute une complexité de gestion. Donc, on se doit aussi, avec ces technologies-là, de voir comment on peut récupérer les BTU, les joules qu'on lance dans l'atmosphère. Alors là encore, quand on s'approche du bâtiment, on doit avoir des systèmes de récupération de chaleur. Vient avec ça l'émergence ou la réinvention actuelle des réseaux de chaud et de froid qui sont souterrains, hein, qui permettent de centraliser, de récupérer ces énergies-là. Donc, les innovations viennent du fait que notre source d'énergie va être variée, complexe, diversifiée, décentralisée, que beaucoup d'utilisateurs comme Concordia pourraient être des producteurs d'énergie. Et si on est capable d'aider la grille en se connectant, bien, on vient mettre l'épaule à la roue pour cette transition écologique-là. Alors, toutes ces technologies-là utilisent des logiciels qui permettent de gérer en temps réel et ça nous crée une exposition au risque d'attaque de cybersécurité. Donc, les technologies de cybersécurité vont être très, très importantes. Quand on pousse aussi cette transition-là, on a tout le volet financier. Donc, il y aura certainement, c'est moins technologique, mais il y aura des outils financiers qui devront être développés aussi.
Donc, Stéphane, on comprend que c'est multidisciplinaire comme plan. Mais pour les gens à l'écoute, ce qu'on comprend aussi, c'est que nos entreprises, elles vont être amenées à être intégrées dans ces réflexions-là de comment mieux consommer, réduire leur consommation d'énergie, pas seulement pour contribuer à la transition, mais il y a aussi une opportunité pour elles de réduire leurs coûts fixes. C'est des coûts importants quand même. Oui, on contribue à la lutte au changement climatique en s'engageant en tant qu'entreprise, mais on vient aussi réduire ses coûts.
C'est tout à fait juste parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis les coûts d'électricité ou les coûts d'énergie qu'on paye aujourd'hui et penser qu'on peut projeter ça sur un horizon de 10 à 15 ans. Il y a une complexité additionnelle qui va engendrer une élévation des coûts, c'est incontournable. Sans compter qu'il va y avoir des réglementations qui vont se déployer. On pense déjà à l'Europe qui va exiger une patte blanche sur l'empreinte carbone, étiquetée peut-être sur des produits. À défaut d'avoir ça, ben, il va y avoir des taxes et ces taxes-là vont nous rendre moins compétitifs. Ou encore une taxe carbone qui va venir s'imposer progressivement, qui va rajouter au coût d'opération et aussi les coûts de l'énergie qui vont monter. Donc, si on se prépare maintenant en s'apprivoisant progressivement ces technologies-là, on se positionne comme entreprise sur plusieurs fronts. La conformité, la gestion de l'énergie, l'économie d'énergie, l'optimisation des procédés. C'est toutes des avenues là, qui nécessitent le minimum d'exploration et d'activité à l'heure actuelle pour être prête pour le futur.
Tu dis bien, sans sous-estimer aussi la mobilisation des employés à travers tout ça. C'est une facette qui est super importante dont tu nous as parlé tout à l'heure. Maintenant, pour conclure, Stéphane, j'aimerais t'entendre sur ta vision par rapport à la transition, à ce qui se passe à Montréal. Est-ce que tu es optimiste pour la suite? Est-ce que tu sens que Montréal peut se positionner dans les deux dans la transition énergétique?
Moi, je suis très optimiste. J'ai un amour certain pour Montréal, donc je suis peut-être biaisé un peu. Je pense qu'on est très bien positionné, ce qui nous permet d'avoir des soucis de moins que peut-être certains auront à gérer. Et si on redéploie cette énergie-là, comme on a fait à plusieurs fois dans plusieurs secteurs d'activité, c'est certain qu'on va se distinguer. On n'a pas une minute à perdre. Puis on n'a pas trop de questionnement à y avoir. Des fois, il faut se mettre dans l'action puis croire qu'ensemble, on peut y arriver. Des fois, on se questionne un peu trop au Québec. On est tout à fait habilité avec nos universités, et là, je parle de toutes les universités confondues, un gouvernement qui a quand même un focus sur l'investissement et l'innovation exceptionnel, une communauté d'affaires, et vous en faites partie, qui a un focus et une énergie pour faire avancer les choses. Et on a quand même cette culture de débrouillardise-là qui est omniprésente, combinée avec la créativité. Là, on a plus qu'un actif créatif. Quand on met ça ensemble, ça fait un terreau fertile et on est capable vraiment de faire des grandes choses ensemble.
Merci beaucoup, Stéphane. C'était un plaisir de te recevoir pour ce balado. Puis on va suivre de près, les gens à l'écoute, j'en suis certaine, ce qui va se passer avec le plan Net Zéro, avec Concordia. Puis on continue de collaborer aussi à travers nos travaux pour Convergence.
C'était un plaisir, merci.
C'est ce qui conclut cet épisode. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à vous abonner à S'entretenir. Nous vous proposerons d'autres invités pour nous partager le récit de transition vers une économie verte. S'informer, c'est aussi contribuer à la transition. Restez à l'écoute de S'entretenir.